Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Aujourd'hui, on va se poser une question qui nous tourmente tous et toutes, plus ou moins, quand même, en fonction des situations. On va se questionner sur le couple. Alors, comment on fait pour être prêt? Le couple, c'est-il un passage obligé? Est-ce que notre conception de l'amour, c'est lié à la manière dont nos parents nous ont aimés? Comment on gère notre solitude? Pourquoi, parfois, on est attiré par des personnes qui sont mauvaises pour nous? Comment on tombe pas dans ces névroses? C'est quoi la place du sexe? Comment on le fait durer? Et toutes ces questions, on va les traiter avec beaucoup, beaucoup d'humour avec Franck et Vanessa Lobvé. Franck, vous le connaissez sans doute, c'est un thérapeute spécialement connu parce qu'il est très rentre-dedans, anti-développement personnel. Et ce que j'ai découvert dans cet épisode et dans cette conversation, c'est qu'il a aussi beaucoup d'humour. Donc on s'est beaucoup marré. Et en même temps, on a traité le sujet de manière très sérieuse. Vous allez l'entendre. Donc ça va être assez profond. En même temps, ça va vous apporter énormément d'insights. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Moi, j'ai passé un très bon moment à l'enregistrer. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Vanessa et Franck, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Greg.
Bonjour Greg, ça va bien.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien? Mm-hmm. Bon, alors on est ravis. On va parler du couple ensemble. Ça tombe bien puisque vous êtes tous les deux. Et peut-être que la première question, c'est de se poser la question, est-ce que le couple, c'est un passage obligé d'abord?
Moi, je crois pas. Enfin, pour moi, oui, mais je crois que pour les gens, pas forcément.
Ben moi, je crois que c'est un passage obligé, ne serait-ce que pour se poser la question de « est-ce que j'en ai vraiment envie ?» au moins pour ça, tu vois. Après qu'on aboutisse à « c'est pas trop mon truc, j'ai pas envie de vivre ça », ok, mais sans avoir fait l'expérience, ça me paraît un peu curieux. Donc ça pourrait rester un passage obligé, au moins dans le sens-là, au moins pour dire « j'aime pas ».
Ok, je comprends.
Ou « j'aime ».
Ou « j'aime », après, évidemment.
Ou « j'aime ».
C'est comme quand on fait goûter des trucs aux enfants. Il faut au moins goûter pour dire si on aime ou on n'aime pas.
C'est ça. Ouais.
Mais après, on peut aussi avoir eu des mauvaises expériences passées qui font que tu dis que tu n'aimes pas, alors qu'en fait, parfois, tu n'as pas rencontré une personne avec laquelle ça fonctionnerait bien, non?
Bah oui. Mais...
Oui, mais du coup, tu as eu l'expérience. Donc, c'est un passage obligé pour savoir si on veut ou on ne veut pas.
Mais pour la suite, c'est vrai que du coup, c'est comme, on reprend la métaphore des légumes et des enfants, tu n'aimes pas la première fois. Ça ne veut pas dire que quelques temps plus tard, tu n'auras pas changé tes idées à propos du goût, accepté d'autres goûts, etc. Après, on peut, et c'est un classique, on peut toujours se servir de ce qu'on a vécu de douloureux pour se dire c'est le couple qui est douloureux, ou c'est les hommes qui sont douloureux, ou les femmes qui sont douloureux. C'est-à-dire qu'on peut généraliser notre vécu, et en général, c'est des attitudes d'adolescents. Hein. Un adolescent, il fait une expérience et il se dit « ah, bah ça, j'ai déjà fait, c'est mort ». Un adulte pourrait se dire « j'ai pas fait l'expérience, j'ai fait l'expérience avec un tel ». Donc l'expérience avec un tel ne m'a pas plu, ce qui ne signifie rien de ce que serait l'expérience avec tel ou tel autre.
Et alors il y a une phrase sur votre site qui m'a interpellé, et vous dites « travailler sur soi, c'est peut-être la meilleure manière de ne pas bouger ». Et déjà, j'aimerais bien comprendre cette phrase. Et puis ensuite, vraiment la question qui vient derrière, c'est comment on fait pour être... pour être prêt, entre guillemets, si tant est qu'on puisse l'être.
C'est ta phrase. Hein.
Ok, j'y vais. Assume tes phrases.
Non, je la comprends, mais explique ce que tu veux
pour
dire.
Pour moi, si c'est le meilleur moyen de ne pas bouger que de travailler sur soi, c'est y a plusieurs niveaux dans la réponse. Le premier truc, en fait, c'est déjà l'idée que travailler sur soi, c'est pour moi l'idée que il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi et que il et je vais d'abord me considérer comme un problème. Je dis que travailler sur soi n'avance pas parce que si je pars avec comme énergie, comme postulat, ce que je suis ne convient pas et que je travaille là-dessus, c'est-à-dire que je nourris cette idée en énergie, en quête, en recherche, etc., il est rare que ça puisse aboutir à que je tombe en amour de moi alors que le moteur sous-jacent, ça soit ce que je suis ne convient pas. Déjà, il y a cet a priori. Mais après, on pourrait faire un podcast entier hein, juste sur cette question. Donc, bon, voilà.
Bah vas-y, hein. Avance. Moi, ça me va.
J'affleure le truc, mais il y a aussi un autre truc. C'est si ça n'aboutit pas, c'est parce que je ne sais plus ce que je veux dire.
Ce qui n'aboutit pas, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, je pense. Travailler sur soi veut dire changer, veut dire guérir, veut dire évoluer, alors que finalement, nous, on pense que c'est le temps qui passe, c'est les cycles, c'est les saisons, c'est la nature, c'est le vécu, c'est les expériences qui fait qu'on change et qu'on évolue. Il n'y a rien à faire pour changer et évoluer comme une plante pousse. Nous, humains, on pousse. Et il n'y a pas de il y a rien à faire pour ça.
Après, on est convaincu que c'est intéressant de se poser des questions sur comment nous fonctionnons, mais que se poser des questions sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a mis en place, quels sont les enjeux conscients ou inconscients et qui nous mènent là où on est ok pour se poser les questions, mais ensuite chercher des stratégies pour réussir notre vie, là on n'est plus d'accord. C'est à cet endroit-là, en fait, que ça s'arrête. C'est-à-dire chercher des stratégies pour tomber sur la bonne personne, pour faire le bon couple, pour que ça dure, parce qu'en fait, l'amour, c'est quand ça dure, ou quand c'est quand ça tombe sur des enfants, ou quand... Tout ça, en fait, tout ce qui après relève de la stratégie pour la route vers le bonheur, ça y est, on est plus d'accord. On ne considère pas, en fait, qu'il y ait moyen d'obtenir le bonheur d'une manière délibérée en cherchant à y aller. On est convaincu que le bonheur, ça soit plutôt d'accepter les hauts et les bas, les bons moments et les mauvais moments, les bonnes et les mauvaises expériences, et que d'accepter tout ça puisse nous donner une idée de ce que c'est que le bonheur, tu vois. Mais l'idée d'utiliser le travail sur soi, le développement personnel comme une méthode pour obtenir du bonheur, nous, ça nous donne plutôt la nausée qu'autre chose.
Je dois avouer que même rien que l'idée du bonheur est quand même un concept très étrange, quoi. Finalement, il est très subjectif à chacun, et puis... Et puis, c'est bien plus large que ce qu'on peut imaginer, à notre sens. C'est pour ça qu'il parle des hauts débats. On peut trouver du bonheur à notre nostalgie, à notre douleur, à notre dépression, à notre... Enfin voilà, on peut trouver du bonheur dans le malheur, finalement.
En fait, ce qui... Alors, vous me dites si j'ai tort, ou si je me trompe dans ma compréhension.
De base,
j'ai tort.
Ça, nous, je pense que, voilà. A priori sur l'humain, c'est tout le monde, sauf nous, donc payez-nous et on vous expliquera c'est quoi la vie.
En fait, ce que j'allais dire, c'est notre conception de l'amour, elle est très liée à la manière dont nos parents, en particulier notre mère, nous a aimés. Et parfois cet amour, il peut avoir été dysfonctionnel. Est-ce que ça, du coup, tu peux... travailler dessus, entre guillemets, de dire bah, peut-être que, je ne sais pas si ma mère était violente, si ma mère... Et que je vais chercher ce genre de relation derrière, c'est peut-être pas idéal pour moi, même si c'est la traduction de l'amour dans mon inconscient. Donc ça, je peux bosser dessus. C'est ça ce que je comprends. Mais par contre, après, essayer d'optimiser pour atteindre une sorte de bonheur permanent, avoir une vie instagrammable permanente, ça, c'est mort. C'est ça l'histoire ou je me trompe?
Nous, on ne pense pas qu'on puisse travailler dessus, on pense juste qu'on peut prendre du recul dessus, on peut regarder ça différemment, on peut changer notre perception, on peut...
C'est ça, c'est-à-dire que, si tu veux, notre travail, il se fait en amont de ce que tu es en train de décrire. Bon, alors, évidemment, sur la part... qu'on a déjà nommé auparavant, c'est-à-dire la course au bonheur instagrammable, on est tombé d'accord, c'est pas notre cam, on n'y croit pas. On pense que la vie, elle est faite de hauts et de bas, et que si on connaît pas les bas, on connaît pas les hauts. Donc, viser que des hauts est une sorte de non-sens.
Ouais, et puis, Instagram, c'est que ce qu'on voit de la vie de ceux qui instagrammisent leur vie. On voit pas Instagrammiser. On ne voit pas toute leur vie, on ne voit que ce qu'ils veulent montrer de leur vie. Hein, donc, faut pas oublier que c'est une vitrine.
Mais donc, pour revenir à la question à propos de travailler sur ce qu'on a vécu avec notre maman, avec notre papa, parce que je sais pas pourquoi tout de suite on part sur la maman, parce que les papas nous servent aussi de bourreaux, faut pas se leurrer. Nous, on va plutôt aller chercher ça en amont, c'est-à-dire avant de dire ma mère est dysfonctionnelle, on va aller se dire peut-être que ma mère est un être humain, que dans l'être humain que j'ai perçu de ma mère, j'ai pris l'angle qui me permet d'en tirer la conclusion qu'elle est dysfonctionnelle. Peut-être qu'en prenant d'autres souvenirs, j'aurais pu en tirer d'autres conclusions, et donc je ne serais pas dans le même mood et je ne serais pas dans la même histoire. Donc nous, on est sur un truc de retourner à la responsabilité des légendes que l'on raconte à propos de nous, de manière à comprendre que, au fond, on va toujours devenir loyal, fidèle à l'histoire qu'on raconte à propos de nous-mêmes. Donc, effectivement, si je prends dans ce que j'ai vécu avec mon parent les moments les plus douloureux, les plus tordus, et que je fabrique la légende de mon expérience comme étant celui qui s'est remis malgré tout, ou celui qui a été écrasé par, et que ma légende tourne autour de ça, il y a toutes les chances pour que dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, dans toutes les facettes de ma vie, je retrouve de quoi consolider cette légende, c'est-à-dire d'être... Si, par exemple, j'ai été victime de ma mère, d'être victime des femmes. Si j'ai été victime de mon père, d'être victime des hommes, comme dans une sorte de continuité de ma légende. Alors, c'est un peu difficile à entendre, juste comme ça, parce que j'avoue que je connais pas Vlan.
C'est pas grave.
je ne sais pas exactement comment ton public a l'habitude qu'on lui parle et comment il va réceptionner ça et à quel point il va pouvoir peut-être se servir de ce qu'on dit pour justement nourrir la part de victime ou d'incompréhension, etc. Mais nous, on va aller non pas travailler sur soi, mais travailler sur comment on a pris les choses et non pas comment les choses ont été. Ça fait un petit moment.
C'est un travail de perception, en fait. C'est comment on voit, comment on a vu les choses. On peut changer notre perception. On peut, quand on sait qu'on peut même changer nos souvenirs, quoi, c'est quand même complètement fou.
Oui, mais on va peut-être un peu loin.
Mais
pour nous, c'est assez simple. La réalité vécue est à remettre en cause également. Voilà, on ne croit plus en fait en une version parfaitement claire, parfaitement objective, parfaitement indubitable du monde, qui ensuite nécessite un travail. Voilà, on pense que c'est plus complexe que ça, plus nuancé que ça, et on pense que notre réel pouvoir, le pouvoir des êtres humains, c'est sur le choix. On est convaincu de ce truc-là. Ça va, tu me rejoins là-dessus, ma pub ? C'est-à-dire que le pouvoir des humains pour nous, c'est le choix. Et de quel choix s'agit-il ? C'est là qu'on a envie d'être précis. C'est sur comment on a envie de prendre ce qui nous apparaît comme étant la réalité. Comment on a envie de la prendre.
En fait, je suis hyper d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le super pouvoir humain, c'est de raconter des histoires. Et effectivement, tu peux te raconter ce que tu... Enfin, tu te racontes une histoire et tu te racontes une légende. Et je suis complètement aligné avec ça. Est-ce que c'est ce qui vous fait dire... c'est aussi sur le site et du coup ça m'a fait réagir qu'on a peur d'être démasqué. Est-ce que c'est en fait on a peur que l'autre démasque l'histoire qu'on se raconte parce que vous dites en fait la peur d'être démasqué c'est ce qui crée la solitude, et la solitude c'est vraiment un énorme problème de société aujourd'hui, lié aux réseaux sociaux, lié à plein de trucs évidemment, mais la réalité c'est que les jeunes sont de moins en moins en relation, ils ont de moins en moins de relations sexuelles, et les gens un peu plus vieux ils sont tout aussi seuls. Je pense que c'est très lié à la société individualiste, etc. Mais cette peur d'être démasqué, qu'est-ce qu'on a, de quoi on a peur précisément? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est vraiment qu'on a peur que l'autre découvre nos...